toutes les occasions sont bonnes pour écouter la parole de Dieu, pour l'expliquer et pour l'interroger, pour savoir ce qu'elle a à nous dire pour nos vies. Et cet après-midi, je vais partir d'un texte qu'ont choisi les mariés. Il se trouve dans vos livrets. Il s'agit d'un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, il partit de la Galilée et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent, pour lui tendre un piège, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâle et femelle, et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Ils lui dirent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale et en épouse une autre, il est adultère. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel. Il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes, et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprennent qui peut comprendre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est un drôle de texte pour un mariage que vous avez choisi là. Pour ma part, j'aurais plutôt choisi un texte qui parle d'amour, de joie dans le mariage, qui parle du mariage comme une alliance, qui parle de durée, qui parle de bénédiction pour le couple, de bénédiction qui déborde sur ceux qui les entourent. Or, nous sommes face à un texte qui parle de divorce, qui constate la dureté du cœur humain, qui révèle l'égoïsme, et même qui doute de l'intérêt du mariage, qui le voit comme une contrainte. Je crois que les mariés, en choisissant ce texte, ont voulu regarder les choses en face. Le mariage, ce n'est pas tous les jours facile. Michael et Hélène le savent et ils veulent s'y préparer. Ils ont voulu un texte qui s'adresse autant à eux qu'à nous tous. C'est une preuve de générosité de leur part. Regardons un peu plus ce texte. Qui avons-nous? Quels sont les acteurs? Nous avons déjà des pharisiens qui viennent interroger Jésus. Les pharisiens, j'ai envie de dire que c'est une élite de l'époque, des gens qui maîtrisent la loi de Dieu, qui sans doute espèrent l'avoir comprise et qui espèrent comprendre le monde. Et ces gens, ils n'aiment pas trop Jésus. Ils n'aiment pas trop Jésus parce que Jésus parle de Dieu avec une autorité qu'ils n'ont pas, avec une autorité sans égale. Et Jésus leur fait de l'ombre. Alors, pendant toute une partie du ministère de Jésus, ils n'ont de cesse que de chercher à le piéger, à lui faire commettre un dérapage qui permettrait de le mettre en faute. Et on a là une de leurs tentatives. Ils essaient de le piéger cette fois-ci sur le terrain glissant du divorce, parce que c'est acquis qu'on peut divorcer. C'est même prévu dans la loi de Moïse. La vraie question, c'est pour quel motif est-ce qu'on peut divorcer? Parce que, bon, il ne faut pas d'abus non plus. Est-ce qu'on peut divorcer pour un motif grave ou est-ce qu'on peut divorcer pour tout motif? C'était un débat de l'époque. Certaines écoles de pensée disaient qu'on pouvait être divorcé pour un œuf mal cuit. Donc Jésus est en plein dans les débats de l'époque. Alors Jésus, elle n'est pas belle la question? Aujourd'hui aussi, pour nous, la question est brûlante. Pour certains, il est acquis qu'un mariage n'est pas fait pour durer toute la vie. Mon épouse m'a rapporté une discussion avec une amie. Celle-ci évoquait son compagnon, celui qui partage sa vie depuis des années, le père de ses enfants, celui avec lequel elle nourrit des projets, auxquels elle est attachée. Et à la question qui lui était posée, alors, c'est l'homme de ta vie? Elle a répondu, évasive, je ne sais pas. Rien n'est sûr. Rien n'est certain. Et aujourd'hui aussi, à notre époque, une élite intellectuelle qui a changé notre société, qui a apporté en termes de liberté, de respect de soi, revendique et prêche une jouissance sans entrave et une grande souplesse conjugale. Et je crois qu'on pourrait poser la même question à Jésus ou, en son absence, à son Église. Le divorce, c'est acquis. On sait que presque un mariage sur deux finit par un divorce. Alors, quelles sont les bonnes raisons de divorcer? Est-ce parce que j'en aime une autre, j'en aime un autre? Est-ce parce que nous avons perdu l'excitation des premiers jours? Est-ce parce que ça ne colle plus entre nous? Parce que c'est trop dur? Ou est-ce qu'il faut un motif grave? Grave comment d'ailleurs? Alors, elle n'est pas belle la question? Regardons la réponse de Jésus. Jésus ne répond pas sur le même plan, pratique, technique. Jésus vise une portée universelle. Il cite par deux fois la Genèse, le premier livre de la Bible, celui qui nous parle de la création du monde, de la création de l'homme. D'abord, il rappelle que Dieu a fait l'homme mâle et femelle. Il a fait l'homme, le genre humain, différent et complémentaire. Cette différence et cette complémentarité qui est à l'origine du mariage, à l'origine du désir. Cette complémentarité qui fait reconnaître à l'homme qu'il ne se suffit pas à lui-même, qui le pousse à s'associer avec quelqu'un qui lui est différent et complémentaire. Ensuite, Jésus cite un deuxième texte. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. C'est un texte très cité dans la Bible. Lorsque Jésus parle du mariage, c'est ce texte qu'il cite. Lorsque Paul parle du mariage, c'est ce texte qu'il cite encore. C'est le texte qui institue le mariage. dès la création de l'homme. Et il institue le mariage sous forme d'une alliance qui se vit en trois temps. D'abord, quitter. Quitter son père et sa mère, mais pas seulement quitter le domicile de papa-maman, mais de quitter tout ce qui jusqu'à présent nous a conduits. Tout ce qui a été nos valeurs, nos repères, être prêt à les laisser derrière pour commencer quelque chose de nouveau. Ensuite, s'attacher. S'attacher l'un à l'autre. Se promettre de rester ensemble, quoi qu'il arrive, pour donner à l'autre la confiance qu'il ne sera pas abandonné. Se promettre de faire les efforts nécessaires pour parvenir à rester ensemble. S'accorder l'un à l'autre le droit à l'erreur et la patience. Et puis enfin, troisième mouvement de cette alliance, devenir. Devenir une seule chair, une nouvelle entité, une entité plus forte de sa complémentarité. Une entité prête à porter des projets, et pas seulement des projets d'enfants, mais aussi des projets de bénédiction pour ceux qui les entourent. Tout le mariage est contenu dans ce verset, dans cette ordonnance créationnelle voulue par Dieu, dès le commencement. C'est clair, c'est limpide, c'est exigeant. Et ça coule bec aux pharisiens. Ils tentent bien un petit « oui, mais ça ne va pas bien loin ». Là s'arrête la discussion avec les pharisiens, avec ceux qui cherchent à piéger Jésus, mais elle se poursuit avec les disciples. Les disciples, ce n'est pas pareil. Les disciples, c'est des gens qui veulent comprendre. Ils ne sont pas là pour piéger, mais ils veulent comprendre comment vivre ça. Et là, ils ne comprennent plus. Leurs repères sont bousculés et ils ont besoin d'explications. Ne comprennent plus l'intérêt du mariage. Si on ne peut plus renvoyer sa femme, comment est-ce qu'on peut obtenir ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on peut trouver son compte dans le mariage, sans moyen de pression? Parce que sans la possibilité de la renvoyer, c'est elle qui va nous mener par le bout du nez. Bon, on a affaire à une discussion entre hommes. Mais je suis certain qu'une discussion entre femmes pourrait ressembler à celle-ci, avec d'autres arguments. Du coup, Jésus, est-ce que c'est pas plus facile de rester célibataire? Là, Jésus met le haut là. Célibataire, c'est pas plus facile. Certains sont faits pour ça et sont très heureux comme ça, mais certains ne l'ont pas choisi. Ils ont été rendus ainsi par les hommes qui les ont blessés, et qui les rendent incapables de s'engager, d'avoir confiance, de s'ouvrir à l'autre, de lui laisser la place, ou alors par des hommes qui ne voient pas la beauté qu'ils ont, qui sont incapables de les aimer tels qu'ils sont, et de s'engager avec eux dans le mariage. Et puis certains le sont par choix, restent célibataires par choix pour rester disponibles, pour le service de Dieu, qui choisissent pour lui ce sacrifice. Mais quelle que soit la raison, Jésus le dit, le célibat, c'est difficile, tous ne sont pas capables de l'accepter, et pour certains, c'est bien dur à porter. Finalement, la volonté de Dieu est exigeante, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat. Mais nous sommes ici à un mariage, je vais donc recentrer sur ce point. C'est une voie exigeante, mais Dieu est présent aux côtés de ceux qui le souhaitent, de ceux qui mettent leur confiance en lui. En parlant du mariage, le sage Qohélète dit dans la Bible « Un fil triple ne rompt pas vite ». Il parle du mariage et le triple fil, c'est un homme, une femme et Dieu qui vient les renforcer. Voilà ce qui est conseillé pour fortifier son union, de mettre Dieu au milieu de cette union, pour la fortifier. Et celui qui écoute Dieu, qui cherche sa volonté, trouvera dans sa parole, dans la Bible, des conseils aussi bien pour les conjoints que pour tout homme, et qui seront applicables aussi aux situations que traversent les conjoints. On trouve des conseils pour vivre l'alliance, qui est le mariage. Car le mariage, c'est une alliance. Et dans une alliance, il est important que chacun trouve sa place, que chacun ait un intérêt dans cette alliance. On trouve par exemple ce que dit Paul, « Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Certains trouvent cette approche misogyne. Je crois que celui qui la médite et cherche à la mettre en pratique mettra toujours l'autre à la première place, cherchant à le servir, à lui apporter ce dont il a besoin, à le mettre en avant, à rechercher son intérêt, car c'est ce que le Christ fait pour son Église, et c'est ce que l'Église cherche à faire pour le Christ. Et c'est un premier conseil pour vous, Michael, Hélène, de rechercher l'intérêt de l'autre avant le vôtre. On pourra chercher aussi des conseils pour durer, pour que le mariage dure. Parce que c'est difficile de durer. On n'est pas parfait, on s'accroche, il y a des frictions. La Bible dit que le fer se polit par le fer et l'homme par le contact de l'humain. Se frotter à l'autre, ça fait grandir, mais comme le fer contre le fer, ça fait aussi des étincelles. La Bible donne des conseils pour se réconcilier lorsque c'est nécessaire. S'il y a un problème entre vous, ou même si l'autre a un problème avec toi, n'attends pas dans ton coin qu'il fasse le premier pas. Laisse de côté ce que tu fais, laisse tout en plan et va le voir. Jésus dit même devant Dieu en train de prier, va le voir pour te réconcilier. Qu'aucun de vous ne se lasse de faire le premier pas. Qu'aucun de vous ne se lasse de pardonner et de chercher la réconciliation lorsque c'est nécessaire. Et puis on trouvera aussi dans la Bible une invitation à rechercher la bénédiction. Parce que le mariage, c'est aussi, peut-être certains finissaient par en douter, un potentiel de bénédiction, un potentiel de joie qu'il faut aller chercher et qu'il faut cultiver. La Bible dit « Jouis de la femme de ta jeunesse, biche amoureuse et gracieuse gazelle. Que ses seins te comblent en tout temps, enivre-toi de son amour. » Ce texte parle de sexualité, bien sûr, mais pas que de cela. Ce texte invite à profiter de l'enthousiasme de l'amour, d'en profiter quand il est là. Parce qu'il y a des jours où on le voit moins. Du coup, il faut en profiter quand il est présent pour se faire des souvenirs qui nous rapprochent, pour prendre des habitudes comme un entraînement, pour monter des projets sur lesquels on bâtit, des projets qui porteront plus tard du fruit. Parce que le mariage, c'est aussi un lieu de fécondité, non seulement pour les enfants que vous pourrez avoir, mais aussi pour tout ce que vous pourrez partager autour de vous, fort de ce que vous avez cultivé dans votre mariage. Ces conseils qu'on trouve dans la Bible, qui sont donnés pour tous, mettez-les en pratique. Ceux-là et ceux qui ont été évoqués lors de la préparation au mariage, et puis ceux que vous découvrirez dans la lecture de la parole, et puis ceux que vous forgerez vous-même lorsque vous traverserez les difficultés. Appuyez-vous sur Dieu qui vient à votre aide. Incluez-le dans cette corde comme le troisième fil. Finalement, ce texte ne parle pas de divorce. En tout cas, Jésus ne parle pas de divorce. Son propos, c'est de s'attaquer à ceux qui veulent poser des limites à leur engagement. Ceux qui veulent savoir jusqu'où ils veulent s'engager. Et il leur rappelle que le mariage, c'est complètement, c'est pour toute la vie. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Voilà le programme. Programme d'alliance pour ceux qui se choisissent pour se compléter. Car il s'agit d'une alliance faite pour durer, à laquelle il faut travailler. Une alliance d'amour, une alliance durable, une alliance de bénédiction pour ceux qui choisissent de devenir une seule chair. Et cette façon de voir le mariage, elle n'est pas seulement bonne pour les chrétiens, pour les croyants. Elle est bonne pour toute la création, quand un homme et une femme se choisissent. C'est ça, le mariage pour tous. Jésus conclut, comprenne qui peut comprendre. Michael, Hélène, puissiez-vous comprendre toute la richesse du mariage et sa bénédiction. Amen.